œil.
Et on commence par un tour au CESEC qui se montre très critique envers la stratégie économique du gouvernement. On parlera également de fiscalisation des panneaux solaires, mais aussi de Heiva, de parasport et de football dans cette édition. Le journal de la mi-journée, c'est avec Lucie Ceccarelli. Bonjour Lucie.
Bonjour Sanchez, bonjour à tous.
Et Lucie, on commence par cette phrase. Cap 2033 est un cap sans boussole ni moteur.
Cette phrase, elle résume l'avis du CESEC à propos de la stratégie de développement économique Cap 2033 à Fanora, qui a été présentée sous forme de projet de délibération par le gouvernement. Alors, on le rappelle, ce document présenté par le ministre des Finances à la demande de la présidence met à jour les objectifs du pays en matière de tourisme, avec 450 000 voyageurs par an contre 600 000 auparavant. En matière d'autosuffisance alimentaire, avec 30% de production locale en plus et 100 tonniers contre 80 aujourd'hui. Et en matière aussi de numérique et d'énergie, avec un cap à 60% de renouvelables, toujours en 2033. De la perspective donc, mais de la perspective qui manque de précision et d'assises techniques, c'est ce qu'explique le co-rapporteur de l'avis du CESEC, Thierry Mosser. Écoutez.
Effectivement, ils affichent des objectifs, mais derrière, on ne voit pas de déclinaison opérationnelle de ça. On ne dit pas comment on va y arriver. Et en plus, ça concerne des secteurs qui ont ou pas des schémas des directeurs approuvés, pas approuvés, en cours, etc. Donc on a l'impression qu'on a fait une espèce de patchwork avec les objectifs, avec des secteurs prioritaires, qu'on les a mis ensemble dans un document, et puis qu'on a dit voilà, on va comme ça vers 2033, mais les professionnels en premier disent oui, mais comment on va faire ?
Voilà Thierry Mosser du Collège des entrepreneurs qui note aussi un problème de timing. Cette stratégie se base sur la décennie 2023-2033 qui est déjà largement entamée et qui sera coupée en 2028 par des élections. Le CESEC ne critique pas tous les points du document. Il relève que certains caps revus à la baisse correspondent finalement à ses remarques passées, notamment sur le tourisme. Mais dans l'état, Cap 2033 est assimilé à un document d'affichage politique, une feuille de route qui sonne creux, je cite. D'autres conseillers ont parlé de saut dans le vide sans élastique ou de beaux gâteaux dont on ne connaît pas les ingrédients. Bref, concert de critiques et avis défavorables du Conseil consultatif qui a été voté à l'unanimité de ses membres.
Et le CESEC veut aussi travailler sur l'autosuffisance alimentaire.
Oui, c'est l'objet d'une proposition d'autosaisine soumise au Conseil ce matin par Marotea Vitrak et Moana Maamaatoaya Hutapu. Elle vise la production, la transformation et la consommation locale et elle doit permettre au CESEC de s'exprimer sur les enjeux, les leviers et les perspectives pour une souveraineté alimentaire. Le sujet est éminemment d'actualité. Le gouvernement est critique depuis plusieurs mois pour son bilan en matière agricole. Moetai Brozerson en a fait une nouvelle priorité pour la fin de mandat. La Chambre territoriale des comptes vient de faire paraître un rapport très complet sur l'échec du pays à faire décoller sa production locale. Mais le CESEC pense pouvoir aller au-delà du constat en consultant les professionnels, les consommateurs et les élus. Certains conseillers ont trouvé le sujet trop ambitieux, trop large, mais une majorité s'est dégagée pour voter la proposition d'autosaisine. Pour Marotea Vitrak, il est donc temps de se mettre au travail. On l'écoute.
On a une durée qui est prévue entre 6 à 8 mois, mais pour rencontrer vraiment tout le monde, aussi bien les acteurs institutionnels que les acteurs publics, que les représentations, les syndicats privés, les privés eux-mêmes. L'idée, c'est d'aller chercher vraiment, aussi bien au niveau de l'éducation, au niveau de la formation, au niveau de la recherche. On veut taper très très large. Pourquoi ? Parce que cette consultation publique doit permettre d'éclairer une fois de plus notre gouvernement sur les agissements urgents en matière de sécurité alimentaire, en matière de développement foncier et tout ce qui s'ensuit.
Marotea Vitrak soulagé du vote positif du Conseil économique et social, puisque les deux dernières propositions d'autosaisine sur le foncier et sur l'IA avaient été rejetées.
Et de son côté, Tony Géros mènera ce week-end le Tavigny aux îles Sous-le-Vent pour, je cite, « apporter toute la vérité sur la situation actuelle ».
En effet, après la tournée du gouvernement Brozerson au Raromatay la semaine dernière, à l'occasion du Conseil des ministres délocalisé à Bora Bora, c'est au tour du Tavigny de se rendre aux îles Sous-le-Vent ce week-end. La semaine dernière, Tony Géros accusait le président du pays d'instrumentaliser les élus et les militants Tavigny Raromatay, qu'il avait rencontré lors de son déplacement. Pour le vice-président du parti Bleu Ciel, Moetai Brozerson avait ainsi démarré sa campagne pour les territoriales de 2028. Tony Géros lui emboîte donc maintenant le pas en menant à son tour une délégation à Tahar, Ayatea et Wahine afin d'informer et d'échanger avec la population sur la situation actuelle du parti et autour de l'actualité de l'Assemblée, est-il inscrit à l'ordre du jour de ces rencontres. La délégation qui compte également dans ses rangs le secrétaire général du parti, Victor Maamaatoaya Hutapu et plusieurs élus de Tarahoy commencera ses réunions ce vendredi matin à Taha, puis vendredi soir au marché de Uturoa à Rayatea. Ils seront ensuite à Wahine le samedi soir pour une dernière réunion auquel toute la population est également conviée.
La proposition du pays de fiscaliser l'autoconsommation électrique fait réagir.
En effet, le pays travaille actuellement à une fiscalisation des panneaux solaires qui se multiplient sur les toits des particuliers et des entreprises. La raison invoquée, la difficulté pour le réseau public de continuer à couvrir ses charges, alors que l'autorité polynésienne de la concurrence recommandait il y a quelques mois d'interdire purement et simplement l'autoconsommation au nom de l'équité et de la solidarité. Le ministre des Finances et de l'Énergie a annoncé que le gouvernement réfléchissait à une fiscalisation à minima pour financer en partie les pertes publiques du réseau électrique. Une annonce qui a fait bondir Jimmy Wang, directeur de Sunzil Polynésie et porte-parole du collectif Synergie, qui rassemble des professionnels de la filière renouvelable. Selon lui, la position du gouvernement va à l'encontre des objectifs renouvelables annoncés par le pays, d'autant plus en cette période de crise mondiale du pétrole. Jimmy Wang estime au contraire que le gouvernement devrait mobiliser les privés pour avancer vers un modèle 100% renouvelable. On l'écoute.
On pourra avoir dans 20 ans une électricité qui soit totalement produite par le renouvelable. L'énergie solaire est partout en Polynésie. On a de l'hydroélectricité et j'aurai un parc 100% électrique en véhicule. Dans ce cas-là, zéro importation de pétrole, sécurité absolue en termes de crise mondiale d'approvisionnement. Et à ce moment-là, clairement, le prix de l'énergie pour les Polynésiens sera divisé par deux, au contraire, parce qu'on voit que le prix du solaire baisse régulièrement.
Le directeur de Sunzil évoque également au passage les bénéfices en termes d'image touristique d'une transition plus appuyée, mais il reconnaît la nécessité de se pencher sur le coût du service réseau, à savoir les frais de gestion et d'exploitation qui sont engendrés par les autoconsommateurs quand ils restent connectés au réseau public. La question d'une redevance solaire est en question depuis de nombreuses années, car aujourd'hui tous les coûts sont assumés via le prix de l'électricité par les abonnés qui n'ont pas la chance de profiter de panneaux sur leur toit. Jimmy Wang reconnaît la nécessité d'un débat sur ce point.
Il faut ramener les choses à leur juste valeur. D'une part, si jamais on doublait le nombre d'autoconsommateurs, l'impact serait de 0,6 francs par kilowattheure. Deuxième point, cette augmentation a de fortes chances de ne pas avoir lieu. Pourquoi ? Parce qu'en fait, avec le développement de la voiture électrique qui aura lieu inexorablement, quelle que soit la volonté politique actuelle, parce que dans le monde entier, ce changement industriel a lieu. Donc la consommation électrique globale va augmenter. Donc le service réseau sera payé par cela.
Toute l'interview de Jimmy Wang, directeur de Sunzil Polynésie et porte-parole du collectif Synergie, est à retrouver sur notre site radio1.pf.
Le bruit courait depuis quelques temps déjà, mais c'est désormais confirmé, il n'y aura pas de Hawaii Tahiti en 2027.
En tout cas, pas dans son format concours, mais plutôt dans un format festival Farereira'a, comme ce fut le cas pendant la période Covid. L'information circulait depuis quelques temps au sein des groupes de danse, certains chefs de troupe ayant même participé à une rencontre de concertation il y a 10 jours. Mais elle a été confirmée ce jour par la ministre de la Culture, Samantha Bonnet-Tirao, à nos confrères de Polynésie la Première. Il s'agira d'une rencontre culturelle incluant les groupes des archipels, afin de mettre en avant la richesse de toute la Polynésie à quelques jours du lancement des Jeux du Pacifique. En effet, l'événement sportif démarrera peu après, le 24 juillet, avec notamment des épreuves de basket au sein de l'aire de spectacle de Toata.
Tahiti 2027 encore, avec le comité organisateur qui lance un programme de sensibilisation et de formation au handicap.
En effet, la fédération Teniu Otehuma et la fédération polynésienne du sport adapté et handisport s'associent au COJ pour proposer plusieurs sessions gratuites de sensibilisation au handicap et au parasport. Celles-ci sont ouvertes à toutes les personnes majeures souhaitant s'engager comme bénévoles en cadre sportif ou futur acteur du sport inclusif. Elles permettront aux participants de mieux comprendre les différents types de handicap, de découvrir les spécificités du parasport et d'apprendre à accompagner des personnes en situation de handicap dans un cadre sportif ou événementiel. Plusieurs dates sont proposées, les 7, 13, 21 ou 28 mai de 8h à 13h au sein de la fédération Teniu Otehuma à Fareute. Les habitants venant des archipels souhaitant participer à ces formations pourront bénéficier d'une prise en charge du transport aérien et de l'hébergement à Tahiti.
Sport toujours avec du football et l'équipe de Tahiti United actuellement au Fénoua.
Les footballeurs professionnels de Tahiti United étaient de passage au Fénoua hier après la saison régulière OFC. Ils en ont profité pour aller à la rencontre de leurs supporters à Papeete. Les joueurs ont dédicacé des maillots et pris des photos avec leurs fans. On écoute Bradley Ruiz, défenseur au sein de l'équipe.
Ça fait du bien d'être ici. On n'est pas souvent ici, mais quand on revient, ça fait plaisir. On est avec la famille, les amis, et du coup, ça nous permet de prendre du repos. Après là, ça fait plaisir aussi d'être ici, de voir les gens qui nous supportent tous les jours. Ouais, ça fait du bien et c'est aussi une fierté pour nous.
Ce passage à Tahiti leur a aussi permis de faire le bilan des derniers mois avant que l'équipe professionnelle ne s'envole pour la Nouvelle-Zélande ce samedi. Elle doit y disputer la seconde partie de sa première saison d'OFC Pro League. 3 matchs décisifs pour se qualifier pour le barrage et éventuellement pour les demi-finales du tournoi, comme nous l'explique le capitaine Tao Nui Tehau.
là à rentrer dans le tableau des challengers. Donc ça va être encore un mini championnat, on va dire, pour se qualifier pour les barrages. Et on sait que ça va être très dur. Je pense que c'est là où ça va se jouer. Mais avec les matchs qu'on a pu avoir, donc je pense qu'on a quand même acquis pas mal d'expérience dans le monde professionnel en peu de temps. Et ouais, on est prêt, on sera prêt. L'objectif, c'est d'accéder au match barrage pour gagner le match barrage et prétendre aux demi-finales.
Avant la Nouvelle-Zélande, les joueurs de Tahiti United auront l'occasion de mettre les crampons à domicile lors d'un match amical face à l'AS Stéphana ce soir à 18h30 au stade Ganivet.
Et enfin, quelques événements à noter dans votre agenda pour ce long week-end.
Ce soir, Sandman, de son vrai nom Marcus Winter, présente son spectacle Teipurakao au Petit Théâtre. Devenu maître dans l'art du dessin sur sable, il fait vivre en direct des histoires, des contes et des légendes du Pacifique avec les grains étalés sur un rétroprojecteur. Une autre représentation est prévue samedi ainsi que la semaine prochaine à Moorea. Les billets sont en vente sur le site ticketpacifique.pf. Côté animation en plein air, demain ce sera l'inauguration du parc de la Pointe Riri à Toahotu. À partir de 15h, des animations sont prévues sur le site, avec notamment un concert de Nohorei pour clôturer la journée. Demain également se tiendra le 35e triathlon des entreprises au stade Boris Léontief à Aroué. Et dimanche, du côté du parc Veirei à Punaouia, ce sera le Milo Fun Day. Jusqu'à 2000 familles sont attendues pour des activités autour du sport et du lien familial. Toaromaohi, Zumba, Skateboard, Beach Volley et même chasse au trésor, c'est ce dimanche de midi à 17h. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retour de l'information à 16h pour le Flash.
Merci beaucoup Lucie pour ce journal. Maintenant, voici la météo sur